Mémo audio, une mémoire sonore.
Dans le monde du jazz, du jeune jazz, à l'étranger et en France, on peut distinguer deux tendances. Des jeunes comme par exemple Eric Lelanne qui avait parlé à ce micro, qui disait que lui, il voulait faire une musique binaire parce que c'est ce que les jeunes demandaient. Et une autre tendance, comme on peut noter aussi, de jazzmen qui veulent volontairement s'inspirer des musiques ethniques, comme par exemple Louis Winsberg. Quelle est ton opinion à ce sujet ?
J'ai pas vraiment d'opinion, enfin je sais pas, chacun fait comme il veut, chacun a les influences qu'il a, chacun aime pratiquer la musique qu'il aime pratiquer, je sais pas, c'est complètement personnel. Bon, je connais Eric, les aspirations d'Eric, Eric Lelanne, bon je les connais, Winsberg, je connais ses aspirations aussi parce que j'ai produit son premier album en solo. C'est très bien, c'est formidable, je crois qu'il faut un pluralisme musical. Il faut qu'il y ait plein de tendances qui se dégagent. C'est comme ça que la musique va s'enrichir. C'est toujours comme ça qu'elle s'est enrichie.
Tu as des origines écossaises. Tu aurais pu, par exemple, t'inspirer de musique écossaise.
Je crois que j'ai toujours introduit des éléments de musique folklorique, ethnique dans ma musique. On parle de world music maintenant, mais j'ai l'impression que ça fait 10-15 ans que j'en joue.
Ouais.
Mais bon, comme c'est moins médiatique comme musique, c'est sûr, on s'en rend pas vraiment compte. Mais je crois qu'à ce niveau-là, tout ce qui est l'élément jazz et jazz rock des années 70 et 80 a énormément apporté pour ce nouveau contexte musical, c'est évident. Influences, elles sont éparses, elles sont au gré de l'écoute quand j'entends quelque chose qui me plaît, même si c'est pour ça que j'ai aucune culture musicale. Je connais rien de rien. Vous me demandez qui a composé tel standard, je serais incapable de le dire. Ce qui m'intéresse, c'est de l'entendre, que ça me plaît ou ça me plaise pas, bon, c'est tout. C'est sûr que les influences, qu'est-ce que j'ai eu comme influence, Jimi Hendrix, parce que mon frère écoutait ça à fond les ballons, Frank Zappa, puis voilà quoi, puis Johnny Hallyday, et puis tout aussi, que tout ce qu'on peut avoir comme influence, je sais pas, toute la musique que j'ai pu écouter.
Y compris la musique variété.
Oui, pourquoi pas, on en entend tellement, je vois pas comment on pourrait pas être influencé par la musique de variété. Au moins ça m'a donné le choix de savoir quelle musique j'avais pas envie de jouer, notamment celle de variété souvent. Mais musique classique aussi, parce que bon, j'ai fait beaucoup de musique classique, donc ça m'a influencé pas mal.
Est-ce qu'il t'arrive justement, par exemple, pour travailler l'instrument, d'en refaire
la musique classique? Oh ben toujours. Ça m'est arrivé de donner des concerts encore classiques l'année dernière. Je vais peut-être en donner cette année. C'est toujours un plaisir. Puis c'est techniquement, c'est un très très bon exercice. C'est essentiel et nécessaire.
Alors, je ne sais pas si tu apprécies, mais en parlant de notre violoniste de jazz, est-ce que tu as une opinion sur l'évolution de la carrière de Jean-Luc Ponty?
Je me permettrai pas d'émettre une opinion. Je crois que Jean-Luc Ponty, je lui dois le fait de faire cette musique parce que je crois que c'est celui qui a débroussaillé, dépoussiéré le violon.
C'est vrai?
Et je lui dois absolument le respect. Et je crois que toute la jeune génération de violonistes lui doivent le respect. C'est pas parce que les journalistes spécialisés crachent sur son dos parce qu'il a fait la musique soi-disant entre parenthèses alimentaire. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'il faut que tout le monde aboie à l'unisson.
Tout à fait, ouais.
Non, moi j'ai toujours respecté Jean-Luc Ponty. Et je trouve que c'est un merveilleux musicien, un merveilleux, surtout un merveilleux violoniste.
Est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire sur Grappelli?
Grappelli, c'est un peu le même procédé. Je crois que c'est des gens à qui on doit le respect, dans le sens où ils ont énormément fait pour l'instrument. Pour le violon, c'était pas facile. Ils ont dû lutter contre le conservatisme de l'école classique et ils ont réussi à faire accepter cet instrument dans le jazz, dans le rock. C'est formidable. Que ce soit Jean-Luc Ponty ou Stéphane Grappelli, c'est deux exemples. Et je crois que s'ils n'avaient pas été là, ça m'étonnerait fort que je sois là aujourd'hui.
Outre les moments que tu passes actuellement avec ta nouvelle formation, est-ce qu'il y a un moment particulier dans tes expériences passées qui t'a marqué?
J'ai plein de moments.
Par exemple?
Ce serait trop long à énumérer. Ça va de mon premier passage au Carnegie Hall, de mon séjour aux États-Unis, de la première fois où j'ai obtenu les victoires de la musique. Bon, des conneries comme ça, quoi, des petits trucs, bon, qui sont des gros trucs, soi-disant, mais ça fait toujours plaisir, c'est vrai. Puis les rencontres avec les musiciens, et puis des choses de la vie qui n'ont rien à voir avec la musique aussi.
Il n'y a pas une association ou avec un musicien ou un musicien particulier qui t'ait particulièrement marqué ou impressionné?
Je crois que chaque expérience que j'ai eue avec tous ces musiciens différents a été toujours excellente et merveilleuse. J'ai eu très peu de mauvais souvenirs de mes rencontres avec des grands musiciens. Elles ont toutes été différentes et j'ai eu tout autant de plaisir à les vivre, chacune d'entre elles. Je pourrais parler, quoi, des aventures de ma rencontre avec Tony Williams, de ma rencontre avec ou avec Billy Cobham à une certaine époque, ou avec Gordon Beck, c'est une très belle rencontre. Petrucciani, aussi. Je sais pas, je peux pas en citer une. Elles ont toutes été très agréables.
Ton impartialité est assez admirable. Et quels sont tes projets à venir après ce concert Haute Brasse donc ce soir? Est-ce que tu as des projets arrêtés, déterminés?
Ben disons qu'il y a déjà un disque qui vient d'être enregistré en trio avec Jean-Marie Ecaille et Alain Caron, le bassiste du Zeb. Et donc un disque qui sortira au mois de mai, qui vient de se terminer. C'est un trio high-tech, acoustique. Et puis le disque du groupe qui est en préparation, qui sera enregistré au mois de juin. Et puis entre-temps, ben, des tournées, des concerts et des musiques de films là, qui doivent se faire le mois prochain et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi.
Même audio, une mémoire sonore.